Les noms de Jésus. Parce que nommer une personne, c'est une façon d'entrer en relation. En réalité, il y a trois manières révélées d'entrer en communion avec la personne du Christ. C'était disposé par Dieu, ses noms, son cœur et son visage. Et il est bien d'entretenir les trois. Sinon, on est comme avec un trépied. Qu'est-ce qui se passe si on coupe l'un des trois? Ben, notre édifice spirituel s'effondre. Or, les noms de Jésus, beaucoup sont dévitalisés, parce qu'on les a tellement répétés. Jésus, on ne pense même plus au sens profond du nom. Certains disent, par exemple, ça veut dire Dieu sauve. Ben non. Il faut de la précision dans la parole de Dieu. Pourquoi est-ce qu'on laisse le monde être précis dans les sciences profanes? C'est important d'être précis, hein. Et nous, on serait approximatif dans notre foi chrétienne, alors que la science de l'amour dont nous parle Thérèse de l'Enfant Jésus, celle-ci, elle demeure dans les cieux. Les autres savoirs, ben, c'est intéressant, mais ça dure, comme dit Matthieu 24, le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Or, dans l'Écriture, il y a 120 noms révélés de Jésus. Souvent, on en connaît juste quelques-uns. Donc, il est essentiel, si on veut vraiment connaître notre Créateur, le sens de cette vie, de creuser ces noms-là. Il n'y avait jamais eu vraiment d'études sur le sujet, sauf un début, une ébauche faite par le bienheureux Antoine Chevrier, le fondateur du Prado au XIXe siècle, mais il n'en recense qu'une trentaine à peu près, sans les étudier. Alors que là, nous avons recensé les 120. Certains, peut-être, ont le livre pour le montrer aux autres. Sinon, il se trouve à la grande librairie du sanctuaire. 40 noms sont expliqués et 80 autres qui s'y rattachent sont mis à la fin, ainsi qu'une litanie inédite au doux nom de Jésus. C'est une litanie qui vient des saints du mont Athos. Et donc, par ces noms de Jésus, c'est une manière d'entrer en relation. Si vous connaissez des médecins urgentistes ou des personnes qui s'occupent de sujets souffrant d'autisme, on le sait, c'est expérimenté que nommer une personne, lorsque la relation est bloquée pour un accident, elle est dans le coma ou parce qu'elle a une maladie psychique, l'autisme, eh bien c'est l'ultime manière de la réveiller. C'est beaucoup plus efficace de se renseigner sur le nom de la personne alors qu'elle va mourir, de l'appeler par son vrai nom que de dire monsieur ou madame. Et donc ça nous indique que nommer, c'est le cœur de la relation, mais en complément de la relation avec le cœur du Christ et du visage du Christ. On l'a dit en introduction. Alors ça a été rappelé X fois dans l'histoire, mais tout ceci, ça vient des Écritures. Tout ce qui concerne le cœur de Jésus, c'est pas aujourd'hui l'occasion, mais ça vaudrait la peine une fois. Et pareil sur le visage du Christ, notamment l'icône fondatrice qui est celle qui est présente à Sainte Catherine du Sinaï, qui n'est pas un pantocrator, c'est une mauvaise lecture. Alors, nommer, donc, c'est faire l'expérience de la personne, c'est commencer à s'engager envers elle. Et quelle que soit notre relation avec cette personne, même si c'est tendu, par exemple, ben, le nommer, c'est plus direct, c'est plus proche que juste de lui parler, par exemple. Et donc, s'il y a ainsi une multiplicité de noms, il y en a 120 avec tout le symbolisme de ce nom dans les Écritures, ben c'est comme une multiplicité d'icônes pour la face du Christ. Chacune représente la même personne du Fils de Dieu, mais sous un aspect différent. Ce sont comme 120 touches de couleurs, ces noms, qui, au lieu de nous donner juste un portrait de Jésus en noir et blanc en deux dimensions, donne une vue lumineuse en couleurs, impressionniste, qui se rapproche plus de l'essence en relief de la personne de notre Seigneur, 120 dimensions. Vous avez expérimenté probablement que dans les relations humaines, il est impossible de vraiment aimer sans connaître d'abord. Et c'est le gros piège actuel des applications, des relations qu'on appelle virtuelles. Et parfois même, le soir même, ils commencent à coucher ensemble. Et c'est vraiment du suicide de l'âme. Ça ne peut pas fonctionner. Une relation de couple qui ne s'appuie pas sur une connaissance sincère, une vraie amitié, ne dure pas. C'est comme si notre maison la construisait en une journée ou quelques semaines. C'est de la camelote, c'est du carton. Combien plus est-ce important pour une relation de couple humaine et encore plus la relation avec la seule source de l'amour et la vérité qu'est le Christ Fils de Dieu et la Trinité entière. Et donc, il est impossible d'aimer sans connaître d'abord. Et cela, on le voit dès le premier chapitre de la Genèse. Dieu fait d'abord la lumière, et ensuite seulement, il admire. Et donc, il commence à aimer en disant « cela est bon ». Et même pour l'être humain, le sixième jour, « cela est très bon ». Le grec, alors il faut s'appuyer sur les différentes langues bibliques pour entrer plus en profondeur dans le texte. On n'est pas obligé d'être champion du monde en langues anciennes, mais s'appuyer au moins sur les notes des Bibles d'études. Le verbe aimer, agapein, vient de la racine de l'admiration, agamai. Parce que de fait, on constate qu'on n'aime vraiment que ce que l'on admire. Il faut au moins voir le beau qu'il y a dans l'autre pour commencer à l'aimer. C'est pas toujours du tout une beauté extérieure. À la limite, presque, elle est là au début, la beauté extérieure pour attirer, mais ensuite, c'est tout l'être qu'on va aimer. Et ça, combien plus cela vaut avec Dieu? Dans les deux premiers dialogues personnels dans l'histoire sainte entre un être humain qui représentait le peuple de Dieu et le Seigneur lui-même, à chaque fois, ça a commencé par cette question-là, « Quel est ton nom ?» On voit ça avec Jacob en Exode 32, Genèse 32 et Exode 3, Moïse, « Quel est ton nom ?» Et ça, ça montre que toute l'humanité, on est comme des orphelins qui cherchons plus ou moins désespérément, selon les directions que nous prenons, quelle est notre origine, notre Père, notre Créateur, la vie, d'où l'ai-je reçu ? Ça, les philosophes l'avaient compris même 5 siècles avant l'incarnation, avant le Christ. Vous allez voir chez Platon, Aristote, ils se creusaient les méninges pour essayer de comprendre le sens de la vie. Et le seul motif rationnel de la création de l'univers, c'était une surabondance d'amour dans la divinité. Alors, c'est révélé pleinement en Jésus-Christ, évidemment, mais c'est pas du tout un motif d'orgueil, mais au contraire une responsabilité devant laquelle il a de quoi trembler. Nous avons la totalité de ce que Dieu a révélé dans les 73 livres de l'Écriture et toute l'interprétation de l'Église depuis 2000 ans. 2 Pierre 1:20 dit « Aucune Écriture n'est objet d'interprétation individuelle ». Alors, ça ne veut pas dire que le catholique ne doit pas lire la Bible tous les jours, au contraire. Et ça a été rappelé clairement et explicitement par Benoît XVI, 2010, exhortation apostolique Verbum Domini. Vatican II n'allait pas assez loin. Dans Dei Verbum, il remet la parole de Dieu au centre du ministère, de la théologie, de la mission de l'Église. Mais la lecture personnelle, ça, c'est Benoît XVI qui invite explicitement en 2010. Donc tout catho devrait se trimballer avec sa Bible de poche, voire une Bible d'étude à la messe. Ça ne me choque pas du tout, au contraire. Pourquoi est-ce qu'on laisserait les évangéliques nous éclater en connaissances bibliques, laisser les témoins de Jéhovah connaître une Bible transformée, donc appauvrie, mieux que nous laisser déstabiliser quand ils viennent sonner à notre porte, ou, par manque de charité, les laisser dans l'erreur. Le plus grand service que nous puissions rendre à notre prochain, même si vous êtes parents, le plus grand service que vous puissiez faire pour vos enfants, c'est leur donner la vie éternelle. Encore plus que la santé, les études, le travail, la fringue, les voyages, tout ça, c'est peut-être très intéressant, mais c'est insuffisant. Nous avons été créés selon l'image de Dieu, et donc nous sommes faits pour Dieu. Et donc, on ne peut pas être indifférent, comme dit saint Paul dans l'Épître aux Corinthiens, la charité du Christ nous presse. Il faut demander ça devant la grotte ou devant le Saint-Sacrement, avoir cette soif des âmes qu'avaient les saints. Ce n'est pas réservé à une élite, un privilège pour eux. La sainteté, c'est pour tous. Il est impossible d'entrer au ciel sans être saint. Apocalypse 21, 27, rien d'impur ne peut entrer dans les cieux. Donc soit on le fait ici-bas, soit on devra passer par le purgatoire. Pas du tout comme une punition, mais comme un vestibule, un bestiaire où on est obligé de se changer parce qu'on est tombé dans la fosse à Purin avant. Mais c'est pas agréable. Comme un enfant né prématuré, on doit le mettre dans un incubateur. C'est ça le purgatoire. C'est pas un lieu de torture, mais littéralement de purification. C'est révélé dans l'Écriture, même si le nom purgatoire n'est pas tel quel, comme beaucoup d'autres réalités. Il a fallu l'interprétation de l'Église, mais c'est dans les textes. Tous les mystères de la foi, ceux qui concernent Marie inclus, viennent de l'Écriture. Assomption et couronnement inclus. Jésus a plus de titres que n'importe quel roi. Plus de noms aussi, et c'est normal, il a le CV absolu parce qu'il est Dieu. Donc il ne faut pas essayer de le terminer par une définition. En revanche, nous dit Thomas d'Aquin, il ne faut pas non plus limiter la raison humaine. Dieu a tout donné pour que nous puissions atteindre l'existence et l'amour de Dieu, le reconnaître. Ça ne veut pas dire qu'on va l'englober, le cerner, mais au moins on sait qu'il est et qu'il nous aime. Les saints, donc, recevaient la même parole de Dieu, la même hostie que nous. Ils nommaient Jésus aussi et ils se sont laissés transformer par la grâce. Donc qu'attendons-nous pour vivre la même chose ? Soyez saints comme je suis saint. Et pour ça, il faut passer par les moyens humains, dont le fait de nommer. Le mot « nom », « nomen » en latin, « onoma » en grec, vient du verbe « ginosko » qui veut dire « connaître ». Et connaître, il y a une notion de co-naturalité, naître avec Dieu, donc entrer en communion avec Dieu. Nous sommes de la famille de Dieu. Quel est l'effet d'invoquer ainsi les noms de Dieu ? Alors principalement, il y en a cinq. Ça nous met en sa présence et nous maintient en relation personnelle avec lui. Pour ça, il y a un très beau verset magnifique du Cantique des Cantiques, souvent cité par l'école du Carmel. « Son nom est une onction qui s'épanche. » Les deux Thérèses ont abondamment cité ce verset, et les autres mystiques du Carmel, nommés un des noms du Christ, eh bien, tout de suite, il y a son onction qui s'épanche comme une huile qui coule, qui vient pénétrer toutes les cellules de mon être. Prononcer les noms de Jésus, non plus à Mac 3, en faisant le signe de croix comme un ventilateur, mais avec intériorité et densité et profondeur, en laissant cette onction divine, donc l'Esprit Saint, couler en nous, nous vivifier, nous transformer. Deuxième effet, ça guérit les malades. On voit ça dans le livre des Actes. Ils ne guérissent pas en leur propre nom, mais au nom de Jésus. Par exemple, le paralytique de la Belle Porte, Actes 3-6, ou encore Actes 9-34. Ils ressuscitent même les morts pour Tabitha Dorcas en Actes 9-40, au nom de Jésus. Troisième effet, ça nous protège des attaques de Satan. Léon XIII, aussi celui qui a eu une vision en 1878 de Satan à l'intérieur de l'Église qui attaquait la foi. Il ne faut pas s'étonner du tout s'il y a des apostasies qui sont prononcées par des évêques parfois, malheureusement. Ça s'est produit combien de fois dans l'histoire ? 80% à l'époque de l'arianisme, 80% des évêques sont tombés dans l'hérésie. 14 des 15 évêques de l'époque d'Henri VIII d'Angleterre ont fait un schisme. Alors, c'est pas du tout pour ne pas écouter nos évêques, mais nos évêques eux-mêmes prononcent la foi et participent à l'infaillibilité de l'Église quand ils sont en communion avec la foi une de l'Église. Très belle expression d'Éphésiens 4:5. La foi n'est pas un supermarché, il y a seulement une foi, c'est pas une conviction psychologique subjective, c'est notre participation personnelle de tous le plus possible à la foi de Pierre et ses 266 successeurs en communion et tous les évêques autour, jusqu'à Léon XIV inclus. Et aucun être humain n'a l'autorité pour changer le contenu de ce qui a été cru par tous, partout et depuis toujours. Très belle définition aussi de la foi par un très grand saint français, Vincent de Lérins, en 425. Alors, donc, dans la foi, Léon XIII a eu cette vision de Satan qui faisait du mal à l'intérieur, qui attaquait la foi, la morale, la discipline, la pédophilie, les abus. Et donc, il a écrit le grand exorcisme qui est toujours utilisé en latin, si on sait un peu comment ça fonctionne, seulement par l'évêque du lieu, s'il a la foi, et par l'exorciste, le prêtre qu'il nomme comme assistant. Les autres n'ont pas le droit de prononcer cette prière. Le démon, il aime beaucoup la désobéissance. Si d'autres s'en emparent en prétendant faire un exorcisme, méfiance, le démon revient avec 100 fois plus d'acolytes. Et donc c'est une prière qui se dit en latin parce que le diable est très légaliste. Et c'est truffé de noms du Seigneur et de versets de la parole de Dieu, le Créateur, parce que le diable, comme créature, est totalement soumis à la parole du Créateur. Nous, comme laïcs et petits prêtres, ce que nous pouvons faire, c'est des prières de libération ou de délivrance, mais jamais dialoguer avec le diable ou lui dire « tu », sauf si c'est une parole, une citation de l'Écriture. Là, c'est pas nous qui parlons en notre nom et ça fonctionne. Donc ça nous protège de Satan, invoquer les noms du Seigneur. C'est le troisième effet. Quatrième effet de l'invocation des noms du Seigneur, ça nous sauve peu à peu. En particulier le nom révélé par l'archange Gabriel à la fois à Joseph et à Marie, Yeshua, qui veut dire « le Seigneur sauve ». Qu'il est Seigneur, je confesse sa seigneurie à chaque fois, donc je lui rends les honneurs qui sont dus avec la sainte crainte de Dieu, le couronnement des sept dons de l'Esprit-Saint, qui définissent qui est le Messie, oint par l'Esprit, et qui est le chrétien, un autre Christ, aussi oint par les sept dons de l'Esprit, la crainte de Dieu. Ça nous sauve petit à petit. Actes 4.12, un verset fondamental sur le sujet, dit « Il n'y a pas d'autre nom sous le ciel par lequel nous devions être sauvés ». Donc il y a un unique sauveur, Jésus-Christ, avec ses 120 noms. Et ensuite, il y a des participations au salut, notamment, de manière éminente, la Vierge Marie. Parce qu'elle ne fait qu'un seul cœur avec Jésus, avec Joseph aussi. Hein, souvent, on oublie le troisième cœur, alors qu'il ne faut jamais séparer ce que Dieu a uni. Et c'est prophétisé et révélé, et c'est par décision souveraine de Dieu, exprimée au Golgotha. Elle est notre mère, pas pour nous regarder à distance et nous laisser dans le besoin, mais pour nous secourir et pour tout obtenir. Elle est la toute-puissance suppliante, dit-on dans l'Église. Comme créature, mais prévue dans le plan de Dieu. Donc le nom de Marie non plus ne doit pas être séparé du nom de Jésus, pas plus que le nom de Joseph. Joseph est terreur des démons. Marie est celle qui écrase la tête du serpent, Genèse 3.15 dans la version latine. Et pas le père Jean-Marie Vianney, saint curé d'Ars, quand il avait des tentations, parce qu'il s'est récupéré les tentations de ses pénitents par charité, comme le padre Pio. Son invocation, quand il avait ainsi ses tentations d'impureté ou de colère, c'était « Béni soit le saint nom de Marie ». Et là, le démon ne supporte pas, ça le brûle. Nous avons autorité en prononçant ces noms inspirés, révélés. Le cinquième effet, pour résumer, c'est le dernier aujourd'hui, invoquer les noms du Christ, ça nous obtient toutes les bénédictions et grâces. Le Christ dit dans l'évangile de Jean, « Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous l'accordera. » Tout, il ne dit pas certaines grâces. Tout, mais à son heure et à sa manière. Donc on ne va pas faire un caprice de préadolescent en trépignant, en se roulant par terre, en disant « Mais tu ne me donnes pas ce que j'ai augmenté, donc désormais je t'ignore, voire je te rejette. » Malheureusement, c'est une réaction immature de beaucoup de gens dans le monde. Alors ça peut être compréhensible quand il y a une désespérance, une dépression, mais ce n'est pas du tout rationnel, ni chrétien, c'est ignorer les Écritures aussi. Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Psaume 124, verset 8. Des versets puissants comme ça, il faut les intérioriser. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Donc si intérieurement, on prononce avec intention un des noms du Christ, eh bien le secours est là. Et le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien quand j'invoque les noms du Seigneur. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas souffrir immédiatement. Nulle part, Jésus a dit « Suivez-moi, vous n'aurez plus de croix ». Il dit « Si tu veux être mon disciple, prends ta croix et suis-moi ». Et le verbe employé par Jérôme pour traduire ce « prends ta croix », c'est « accipere », « accepte ta croix ». Ça veut dire « elle ne se choisit pas », on l'accepte comme elle vient, comme le Christ. Il n'a pas choisi d'être supplicié, cloué sur une planche, plutôt que guillotiné. Ça, c'est les hommes qui l'ont tué. Notre secours est dans le nom du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre, donc qui est créateur. Quand il y a des versets comme ça, il y a 35 527 versets dans l'Écriture, il est bon d'employer la méthode de la mère du Verbe elle-même. Jésus lui dit une phrase quand il a 12 ans, et après, grand silence jusqu'au début de son nouveau job quand il a 30 ans, Luc chapitre 3. Quelle a été cette phrase qu'elle a entendue? Et après, le texte dit « Marie méditait cette parole en son cœur ». Jésus lui dit « Je dois être aux affaires de mon Père ». Et après, c'est le grand silence pendant 18 ans. Il y a certainement eu d'autres conversations, évidemment, mais dans la relation qui nous en est faite dans l'Évangile, Marie médite une phrase de Jésus. Ben nous, c'est pareil. Nous laisser visiter, sanctifier par la parole de Dieu. Travailler la parole pour qu'elle nous travaille. Arrêter de lire la Bible juste pour s'informer le cerveau, alors qu'elle est là pour transformer toute notre vie, et pas uniquement notre petite vie à nous et notre nombril, mais la vie du monde. Et si nous, les cathos, on le fait pas, personne d'autre ne fera ce travail à notre place. Et le monde crève parce qu'il n'y a pas assez de cathos qui le font avec fidélité, humilité, attention. Donc les catholiques, on a quand même un gros problème d'analphabétisme biblique. Il n'y a aucun texte du magistère en 2000 ans qui interdit de lire quoi que ce soit de la parole de Dieu. Il faut arrêter ça. C'est un mensonge monté par les Anglicans et d'autres à partir de la Réforme. Il y a eu uniquement quelques petites interdictions locales de traductions hérétiques qui dédivinisaient Jésus ou qui réduisaient ou ignoraient le rôle de Marie. Il y a un gros problème quand on fait ça, c'est que ignorer ou réduire ce que l'on dit de Marie dans l'Écriture, ça se termine en ignorant et réduisant ce qu'on dit de Jésus. Et donc ces sectes se divisent successivement et ils finissent par s'éloigner de plus en plus de Jésus lui-même. Pas du tout pour critiquer nos frères protestants, on a beaucoup à apprendre d'eux sur l'importance du Verbe divin et le remettre au cœur de notre vie. Mais arrêter d'opposer ou de séparer le Verbe consommer, Jésus, Eucharistie et les sacrements, et le Verbe proclamer, la parole de Dieu. Donc les catholiques, on devrait les revoir, venir avec leur Bible d'études à la messe et ne pas lâcher Jésus, ne pas cesser de le tanner, Jésus. Je connais déjà par cœur ces passages-là, mais enseigne-moi quelque chose de nouveau sur toi aujourd'hui, sur tes noms, sur telle parabole. Et si on ne le fait pas, ben le problème, il est de notre côté. Et une petite paresse. Mais la parole de Dieu, elle ne se travaille pas de manière distraite auprès du radiateur au fond de la classe qu'est l'Église. Mais un peu devant, en mettant notre intellect et notre cœur en position active et non passive. Si on y va en écoutant passivement, ça nous ennuie, ça nous rase. Mais même si l'homélie du prêtre est inintéressante et répétitive avec tous ses défauts, ses incapacités, c'est pas le problème. Le problème, il est moi aussi, hein, comme prêtre, parfois, si c'est un autre qui prêche, je peux m'ennuyer. Mais dans ce cas-là, notre boulot, c'est de chercher par nous-mêmes, de nous rappeler sur le texte de l'Évangile. Qu'est-ce que j'ai entendu une fois là-dessus ? Qu'est-ce que je peux découvrir de nouveau sur Dieu infini, sur sa miséricorde, sur tout ce qu'il révèle de lui-même ? Le mot « mystère », ce n'est pas une énigme comme dans un roman policier ou une série. « Mystère », ça vient du grec « muéo », qui veut dire « faire silence ». Parce que notre intellect, notre intelligence de fourmi, ne peut pas saisir tout ce qu'est Dieu. Ça, le temps de la vision, ça sera pour la vie éternelle. Ici, c'est le temps de la foi et de la confiance. Donc, il y a suffisamment, comme dit Pascal dans l'introduction des Principes et Fondements, il dit « il y a assez de lumière pour croire et assez d'obscurité pour ne pas croire ». Donc, il y a assez pour nous nourrir à chaque fois qu'on entend un passage, même si on l'a déjà entendu 1000 fois. Simplement, il faut creuser, aller au fond de la mine d'or pour trouver le filon. Et ça, c'est une démarche active où le recommencer à zéro comme un élève qui redoublerait sa classe de 11e CP toute sa vie, on a noté là où on en était la dernière fois et ça nous permet d'aller plus loin. Sinon, ben, vos enfants, s'ils n'ont rien noté en classe de CP, ben, ils vont rester en CP toute leur vie, ils n'iront jamais à l'université. Pourquoi est-ce qu'on ne permet pas ça pour un petit job du monde qui va durer 40 ans et on se permettrait pour la vie éternelle ? C'est un petit peu plus important, le salut éternel. Et donc, il faut y aller, pas pour scruter cérébralement, apprendre du contenu, mais ne pas opposer la bonne connaissance, la sainte gnose, et l'amour. L'amour se nourrit de la vérité. Amour et vérité se rencontrent, dit le psaume 85, verset 11. Il faut travailler les deux. Si à un moment ça dépasse un peu, ben, il y a un déséquilibre. La foi, enfin, l'amour sans la raison, je suis sujet à beaucoup de conditionnements psychologiques et je suis très influençable, ma psychologie est blessée et je peux me planter en beauté. Inversement, la connaissance qui enfle, selon saint Paul, le premier aux Corinthiens, sans l'amour, ça conduit à une dureté et quasiment tous les hérétiques étaient aussi des grands théologiens, voire des biblistes. Donc il faut travailler les deux parallèlement, nourrir l'un et l'autre, la connaissance et l'amour. Donc c'est ce que nous allons faire un petit peu maintenant, en creusant ces noms de Dieu. Quand on les prononce, prononcer c'est prier. Quand on les dit ou qu'on les lit, en français, ça vient du latin, c'est le verbe legere, qui est aussi utilisé pour la collecte, par exemple, ou la récolte. C'est une manière de cueillir les fleurs du jardin divin. Et dans la Bible, le jardin, c'est le substitut poétique. C'est le lieu de la rencontre entre notre âme et notre bien-aimé, qui est Dieu. Pour terminer sur cette introduction, avant d'attaquer quelques-uns des noms du Seigneur, On voit dans l'écriture, à chaque fois qu'un nom est révélé, il est donné le sens juste après. Un tel s'appelle comme ça parce que ceci. Dans les quatre évangiles de la Vetusira, les quatre évangiles d'après le syriaque ancien, donc l'araméen, la langue même, la religion, la culture de Jésus, manuscrit du IIe siècle, on a mis des tableaux qui donnent le sens de tous les noms propres et noms de lieux présents dans les évangiles. Et donc c'est important de les noter, parce que malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de Bible d'étude qui les donne. Or, c'est vraiment une technique juive sémitique de comprendre les Écritures. On voit ça avec Moïse. Il sera nommé Moïse parce qu'il est sauvé des eaux. Nabal aussi, le premier époux d'Abigaïl, la femme du roi David en 2 Samuel 25, il s'appelait Nabal parce que c'était un vaurien qui n'écoute pas les critiques qu'on lui fait, dit le texte. Et de fait, son péché conduit, il finit par se trucider. Enfin, ça ne termine pas bien pour lui. Donc tout nom, une personne bonne ou mauvaise, c'est une vocation. Et pour cela, l'Occident l'avait perçu aussi, même loin de l'Orient sémite. Il y a un adage latin antique qui dit « nomen est omen ». Ça veut dire « un nom est une vocation ». Alors vous pouvez songer à votre nom, c'est pas magique, hein. Mais parfois, il y a vraiment une vocation qui est cachée dans votre nom de baptême. Ce peut être éclairant. C'est pas tout, hein, du tout. Faut pas du tout s'appuyer seulement là-dessus. Mais dans l'écriture, en tout cas, et dans la sagesse de Dieu qui nous connaissait dès avant la fondation du monde, c'est présent. Le catéchisme le confirme, hein, vous pouvez vérifier dans le magistère ordinaire universel de l'Église, paragraphe 2158. Le nom est sacré et à l'image de la personne. Donc, faut pas mépriser le nom d'une personne même qui est tombée dans des péchés horribles. Il y a une vocation là-dedans et elle est beaucoup plus que son péché qui est une défiguration de sa personne. Les noms de Jésus, donc, c'est comme une expression de son visage. On ne peut pas se contenter de connaître quelqu'un seulement par quelques pourcentages de ce qu'il est, de ses qualités, mais essayer d'accueillir tout ce qu'il a prévu pour que nous le connaissions. Dieu a soif d'être connu par chacun d'entre nous. Et ça commence par ces noms-là. On va voir déjà quelques-uns des noms du Seigneur. Pierre lui-même, lorsqu'il a prononcé la première confession de foi de l'Église à Césarée de Philippe, « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant », que lui répond Jésus pour l'encourager et l'accréditer, confirmer la justesse de ce nom ? « Bienheureux es-tu ? » C'est-à-dire que c'est une des 120 béatitudes de l'Écriture. Ce n'est pas un hasard, il y a 120 noms, il y a aussi 120 béatitudes. Parfois, il y a un mythe, on dit à 365 béatitudes, pardon, mais c'est complètement faux. Il faut de la précision aussi dans la connaissance biblique. Il y en a 120, mais c'est très beau aussi comme nom. Hein. C'est 10, c'est-à-dire la plénitude de la loi, par 12, c'est-à-dire la plénitude du peuple de Dieu. 120 béatitudes, dont celle-ci, de prononcer les noms du Seigneur, un des noms. Parmi les noms, nous allons voir une partie aujourd'hui. Il n'y a pas d'ordre systématique, mais on va suivre un petit peu l'ordre de révélation dans les livres bibliques successifs. En commençant par Jésus, Yeshua, le Seigneur sauve. On connaît dans l'Écriture un personnage de la Nouvelle Alliance par le premier personnage qui a le même nom dans la première. Ça, c'est la technique de base juive, donc de Jésus, de Paul lui-même en particulier, dans tous les midrashim, les commentaires rabbiniques de l'Écriture, ils appellent cela la Gezera Shava, répétition de racines, parce que l'inspirateur divin, Dieu, l'Esprit Saint, est passé par des auteurs humains pour se révéler aux hommes, et l'Écriture est une, c'est un tout. Il ne faut jamais séparer les 73 livres, sinon on tombe dans l'hérésie. Hérésis veut dire sélectionner. C'est la même racine que le mot pharisien, les séparer, ou que le mot paracha, la section de la Torah que les rabbins lisent chaque Shabbat. Et c'est une grosse erreur, l'hérésie. On prend la parole de Dieu comme un tout, et donc on la lit comme un ensemble, en éclairant les mots, si possible, nous disent les rabbins, par le premier emploi du même mot, donc le plus tôt possible, si possible, dans le Pentateuque. Et donc, il y a un premier Jésus dans l'Écriture. Mais pour cela, il faut la polyphonie des sources ou avoir une Bible d'études qui nous l'indique. Jésus, c'est Josué. C'est le même nom en grec, Jésus. Sauf que Yehoshua, c'est l'hébreu, et Yeshua, c'est l'araméen, mais c'est le même nom avec des glissements de consonnes, des petits changements, mais c'est la même personne. Or, qui est Josué dans l'Écriture ? Il est l'héritier de Moïse, le médiateur de la première alliance. Il est celui qui fait passer par les eaux de la mort du Jourdain pour entrer dans la terre de la promesse. Et le nouveau Jésus est celui qui nous fait entrer au paradis, si on le suit, comme les Hébreux avaient suivi Josué. Il est celui qui est vainqueur des ennemis, les Cananéens, comme Jésus éclate la mort et Satan le vendredi saint et termine le boulot le samedi saint. Donc, il est essentiel de connaître ainsi Jésus comme le nouveau Josué, ce que Paul appelle en 1 Corinthiens 10:6 les types ou les figures des événements de la première alliance qui servent pour comprendre les mystères de la nouvelle alliance. Donc mystère, on l'a dit, ça veut dire faire silence devant un mystère divin infini que l'on peut toucher mais pas englober. De la même façon, Marie de la nouvelle alliance, on la connaît mieux en s'appuyant sur la première Marie, la sœur de Moïse, qui danse de joie après avoir traversé la mer Rouge et après que le peuple d'Israël ait échappé à l'armée de la superpuissance mondiale de l'époque, les 600 chars des Égyptiens. Et Marie est celle qui se réjouit parce que le Sauveur vient. Pour Joseph, c'est pareil, on connaît le nouveau Joseph, notamment par tout ce qu'a vécu Joseph, le patriarche, fils de Jacob. Ce nom, révélé à Marie puis à Joseph, est présent plus de 940 fois dans le Nouveau Testament. Et on peut l'appeler Jésus avec la même tendresse que Marie et Joseph dans la crèche de Bethléem, ensuite à Nazareth, lorsqu'ils font toute l'éducation du bébé Jésus, en Égypte d'abord et ensuite à Nazareth. Appeler Jésus avec la même tendresse. Il est important de prier Jésus pas uniquement à son âge adulte, mais à tous les âges de son existence. Ça nous rapproche de lui. Chaque fois que nous prononçons ainsi le Christ, nous entrons dans l'adoption. Nous sommes faits cohéritiers, c'est-à-dire sans aucun mérite de notre part, cohéritiers de la Sainte Famille et de la Famille de Dieu, Éphésiens 2:19. C'est un autre nom de la Trinité. Et nous entrons dans notre vocation, une des manières de décrire le ciel, c'est 2 Pierre 1:4, qui dit « Nous serons rendus participants de la nature divine ». C'est vertigineux comme expression par le premier pape de l'Église dans sa dernière encyclique, juste avant son martyr, 2 Pierre 1:4. C'est ce nom de Jésus qui a forgé la prière du cœur dans l'Ancien Orient. Quel est le grand livre de prière dans la Bible ? C'est le livre des psaumes, le plus long livre de l'Écriture, 150 chapitres. Et le verset conclusif donne la clé de toute la prière juive et chrétienne, en disant littéralement, d'après l'hébreu, que toute respiration, kol en shama, donc c'est pas que tout être vivant, si c'est écrit ainsi dans ta Bible, tu peux raturer en disant mauvaise traduction, c'est que toute respiration loue le Seigneur. Donc la prière continuelle, il n'y a pas besoin de faire des stages de méditation transcendantale à 3000 balles, il y a tout dans le judo-christianisme, même le Dalai Lama avait l'honnêteté de le reconnaître. Vous allez chez Jean de la Croix et chez les Pères du Désert, chez tous les chrétiens d'Orient, l'invocation du nom de Jésus, avec le shodki, la corde de prière, l'évolution moderne de cette corde de prière avec le nom de Jésus. Souvent nos frères orientaux ont extrait des petites phrases, c'est ce qu'on appelle la prière monologistos, ça veut dire en une seule parole courte, phrase biblique hein, parce qu'elle est inspirée. Alors souvent ils prennent la version complète, c'est celle du publicain transformée « Jésus-Christ Seigneur et miséricorde de moi pécheur ». Moi par exemple je fais la course de fond et quand je cours, quand l'air entre, je dis la première moitié de la phrase, quand l'air sort, la deuxième partie, en rythme avec le souffle, que toute respiration loue le Seigneur. Ça aide. Et dans l'Église occidentale, ça a été bien développé et transformé, mais c'est le même principe exactement dans le chapelet. Sauf que le chapelet, c'est tardif. C'est 15e siècle, grâce à l'ordre des Chartreux. Et ça ne veut pas dire que les Latins n'y priaient pas avant. Mais avant, on avait la même prière que dans l'Église indivise, avec le nom de Jésus au cœur de la phrase, parce que c'est ce nom par lequel nous sommes sauvés. Et donc l'Église a rajouté à cette prière 100% biblique qu'est le rosaire, il n'y a pas plus biblique que le rosaire, le chapelet, en additionnant le nom de Jésus à la parole d'Élisabeth. Alors on dit parfois, ouais, la deuxième partie, enfin la fin du « Je vous salue Marie », c'est pas dans la Bible, donc c'est inventé, c'est du rabâchage, ben non. Ce sont des différents morceaux de l'écriture qui ont été mis ensemble, mais c'est vraiment biblique. Et de toute façon, ce qui fait du chapelet un fouet contre le démon et nos propres péchés, la bombe atomique du chrétien, plus puissante pour construire que les bombes atomiques des hommes pour détruire, c'est le nom de Jésus qui est au cœur. Si Marie apparaît à Lourdes et ailleurs avec un chapelet dans la main, c'est pas qu'elle est malade mentale, narcissique, en se priant elle-même. Et elle prie avec nous et on passe par elle pour s'adresser à Jésus, l'unique sauveur. Marie, selon saint Irénée, causa salutis, cause du salut. Et donc elle s'adresse à l'unique Yeshua, Jésus sauveur, en participant de son unique médiation. 1 Timothée 2:4. Donc il est important de ne plus prononcer ces noms avec distraction, mais de le faire amoureusement. Dieu veut ainsi que tout homme soit sauvé. 2 Timothée 2:4, c'est le verset qui a le plus touché un très grand saint, Dorothée de Gaza, au 5e siècle. Il veut que tout homme soit sauvé parce que c'est son essence. Yeshua, le Seigneur sauve. Et quand on le prononce, ça se réalise, parce que c'est une parole divine, non créatrice. Les témoins contemporains de Thérèse d'Avila ont rapporté qu'en 1563, si vous avez visité le Convento de la Incarnación à Avila, elle a eu une apparition en bas des escaliers, donc c'est l'enfant Jésus qui lui est apparu. Elle lui a demandé « Comment t'appelles-tu ?» Le Christ enfant lui a répondu, l'enfant a demandé à Thérèse, comment t'appelles-tu? Elle répond, je suis Teresa de Jesús, Thérèse de Jésus. Et donc Jésus lui a répondu, je suis Jésus de Thérèse. Donc quand tu appelles Jésus, il faut essayer d'entrer dans cette même amitié, intimité que les grands saints, Thérèse d'Avila par exemple, avec le Christ, et lui-même nous nomme. Il nous a nommés pour nous appeler à l'existence. Et en retour, comme il a soif de communion, il ne veut pas rester indifférent ou distant de ses enfants. Si vous êtes des parents ou grands-parents saints d'esprit, la plus grande joie sans doute que vous ayez, c'est de vous retrouver avec votre famille, qu'il y ait une harmonie entre tous dans la famille. Combien plus Dieu, la source de la famille et de l'amour, veut la même chose avec nous. Il veut cette relation. Un des plus grands historiens de l'Église, Eusèbe de Césarée, un très grand saint, de Césarée en Terre Sainte, sur la côte méditerranéenne, rapporte l'histoire de Constantin, cet empereur d'origine païenne, qui s'est converti avec cette vision dans le ciel du nom de Jésus, apparaissant peu avant la grande bataille du pont Milvius. Et le pont Milvius, c'est un pont au-dessus du Tibre dans le nord-est de la Rome actuelle. Ces noms-là, Jésus notre Sauveur. Bon, et alors il y a toute cette dévotion ensuite dans l'histoire du christianisme. Nous sommes assis sur des épaules de géants. Représentez-vous qu'il y a 80 générations depuis Jésus-Christ. Donc, s'imaginer qu'on va faire des nouveautés intéressantes ou pouvoir se passer d'eux après, c'est pas très humble et pas très sage non plus. Et en même temps, si on interrompt cette transmission envers les générations futures, c'est une trahison de 80 de nos pères qui nous ont précédés, pas forcément par génération selon la chair de père en fils ou de mère en fils ou fille, mais aussi de façon spirituelle. C'est pas toujours les parents selon la chair qui transmettent la foi, mais au moins 80 générations de chrétiens qui nous ont transmis la foi. Donc il faut transmettre cela, dont la dévotion au nom du Christ. Et donc Ignace d'Antioche, par exemple, disciple de Polycarpe, disciple même de saint Jean, il me semble, prononçait le nom de Jésus et se l'est fait graver sur le cœur. On l'a retrouvé après son martyre. De même, saint Bernardin de Sienne, au XVe siècle, a développé cette dévotion au trigramme, les trois lettres du nom de Jésus. Maintenant, on peut voir un autre nom important, évidemment, c'est Christ ou Messie. C'est exactement le même nom, mais en hébreu araméen d'une part, en grec d'autre part. Et donc, ça serait à Antioche qu'ils auraient trouvé ce nom-là parce que les messies, ça n'existe que dans la religion juive ou dans certaines religions sémitiques, mais pas dans la culture indo-européenne comme les Grecs. Et donc, Christos, c'est pas un nom choisi au hasard, parce que c'est un jeu de mots avec Christos, qui a un très beau nom, qui veut dire le bon, le doux, le aisé. Donc ça exprime toute la bonté qu'il y a dans le Fils de Dieu qui vient sur la terre pour nous sauver. Pour assumer humainement tout ce que nous vivons et pour sauver divinement aussi tout ce qui a besoin d'être sauvé. Autrement, il n'aurait pas la puissance pour le faire. Et quand on dit Christ, faut pas le dire trop vite parce que là aussi c'est un abîme de contemplation. Thérèse d'Avila, par exemple, quand elle dit le Notre Père, elle dit mais parfois, elle n'arrive pas à continuer, elle s'arrête pendant une heure, tellement elle est bouleversée, renversée par le vertige de cette expression « Notre Père ». Je ne méritais pas d'être adopté, mais je suis adopté dans le peuple de Dieu depuis que le Christ est venu par mon baptême. Eh bien, avec le Christ, c'est pareil. Les attentes messianiques au temps du Nouveau Testament, il y a 2000 ans, le Messie devait pas uniquement être descendant de David, la tribu de Juda. C'est une composante importante, mais c'est qu'une des trois composantes. Donc, le roi d'Israël, David, c'est le roi triomphant, victorieux de ses ennemis, glorieux. Il y a ça dans le Messie. Mais tribu de Juda, Yehuda, ça veut dire Eucharistie au Seigneur. Yé, c'est le début de tétragramme, le nom du Seigneur qu'on ne doit pas prononcer. Et Huda, si vous allez en Israël, quand on dit merci, on dit Toda. C'est la même racine déclinée, ça veut dire merci, action de grâce, Eucharistie. Et donc la vocation du peuple, des disciples du Christ, c'est d'entrer dans l'Eucharistie du Messie. En étant dans la lignée royale, nous sommes fils du roi des rois si nous sommes chrétiens. Ça implique d'immenses responsabilités. De grands droits aussi, droit à la paix du cœur et à la joie, et des grands devoirs. Le deuxième sens de Messie, au temps de Jésus, chez les Juifs, c'est fils d'Aaron, c'est-à-dire le grand prêtre, offrant le sacrifice pour la rédemption des péchés du peuple. Aaron était chargé de garder la présence, l'arche d'alliance de Dieu au milieu du peuple, de bénir le peuple et d'offrir la prière, comme tous les prêtres, pour le pardon des péchés. Et ça, c'est ce que le Christ réalise, à la fois comme fils d'Aaron et avec son sacerdoce nouveau, non selon la chair de façon héréditaire, mais selon l'ordre de Melchizedek, dit aussi Hébreux chapitre 7, le grand prêtre souverain éternel. Et le Messie, la troisième composante des attentes messianiques au temps de Jésus, il est aussi descendant de la tribu de Joseph, le patriarche souffrant, parce qu'il est quasiment tué par ses propres frères, vendu en esclave à des Nabatéens, et à la fin, il leur pardonne et il les sauve en les nourrissant. Et ça, c'est Jésus, Messie, pain de vie, tué aussi par ses frères, nous, et il ne répond pas par le châtiment, mais en nous bénissant et en se donnant lui-même, en prenant sur ses épaules les conséquences de nos péchés. Donc, pour résumer, pour récapituler, Christ, c'est fils de Judas, fils d'Aaron, fils de Joseph. À chaque fois qu'on dit Christ, on doit penser à ces composantes, ces mystères infinis. Ça faisait depuis Jacob 1600 ans entre Jacob, ses 12 fils et Jésus. Et donc les tribus, ce n'était pas du mariage endogamique. Ils se mariaient évidemment entre eux. Alors ils savaient à quelle tribu ils appartenaient par leur patronyme, mais ils restaient descendants de plusieurs d'entre ces 12 tribus. Les principales missions annoncées du Messie dans l'Écriture, c'est de rassembler les tribus dispersées. Ça, c'est dans le nouveau peuple de Dieu, c'est Israël selon la chair et Israël selon l'Esprit Saint, l'Église. Il n'y a pas du tout à opposer les deux, nous sommes co-héritiers désormais. Donc, rassembler les tribus dispersées. Deuxième mission, aussi clairement révélé chez les prophètes du Messie, c'était de purifier le sanctuaire. Et ça, Jésus le fait en purifiant le culte et en instituant le culte renouvelé qui ne remplace pas le culte ancien. C'est pas l'Église qui a détruit le temple de Jérusalem et interrompu les sacrifices, ce sont les gros païens romains. C'est pas l'Église. Et donc Jésus a quand même purifié pour l'annoncer 40 ans avant les événements, la terrible guerre civile de l'an 70, le temple incendié. Jésus annonce cela en purifiant le sanctuaire, mais il le détruit pas. Hein. C'est pas les prêtres qui renversent non plus. Et les apôtres, après la résurrection, continuent d'aller au temple, même dans la joie, dit Luc 24. Et cette première alliance reste valide, dit Benoît XVI, sur le mystère d'Israël. Ils sont comme témoins de la première alliance jusqu'à la parousie. Ils seront les derniers à reconnaître Jésus de Nazareth comme Messie. Donc purifier le sanctuaire en instituant le sacrifice de l'Eucharistie, non plus avec le sang des animaux, mais en s'offrant lui-même, en sa personne, pour qu'on commence un petit peu à croire jusqu'à où il nous aime. Troisième mission du Messie révélée, c'est de protéger le peuple contre tous ses ennemis et établir la paix. Psaume 110. Alors vous allez dire, mais depuis 2000 ans, ce sont des guerres incessantes. C'est vrai. Et parce que le serpent, quand on lui coupe la tête, ben la queue continue de bouger. Et Dieu nous laisse libres. Et donc le temps que ce salut se déploie, eh bien, il y a encore des souffrances et du mal. Et leurs conséquences, le cancer des innocents, des tremblements de terre, des tsunamis. Et Dieu cherche des coopérateurs pour que ce salut soit annoncé et se déploie. Après 2000 ans, il n'y a que 25% de l'humanité qui est chrétienne. C'est énorme, hein, 2 milliards. Mais c'est insuffisant. Et pourquoi? Ben peut-être parce que nous ne sommes pas suffisamment fidèles, on fait pas assez notre job. De quelle manière est-ce que je réponds à la grande mission de Jésus? Matthieu 28, 19, faire des disciples. Non pas en imposant ce que nous connaissons, mais en le proposant. Si on le fait pas, personne d'autre le fera à notre place. Et Jésus a voulu qu'on ne se repose pas. Le repos, c'est pour le ciel. Ici-bas, il cherche des ouvriers. C'est même une des seules trois intentions de prière du Christ dans l'Écriture. Prier pour pas entrer en tentation, prier pour nos persécuteurs et prier pour que Dieu envoie des ouvriers à sa moisson. Et qui sont ces ouvriers? C'est nous. Ça correspond au troisième commandement de Dieu au Sinaï, dans le Décalogue. 6 jours tu travailleras, le 7e tu te reposeras. Alors on l'a platement résumé, tu sanctifieras le jour du Seigneur. C'est pas faux, mais c'est quand même réducteur. 6 jours au boulot les chrétiens. Tous. Ce n'est pas réservé à certains missionnaires seulement, tous les baptisés, chacun avec nos petits moyens, mais juste témoigner, répandre la bonté de Jésus. C'est ce que disait le Père Lacordaire, immense prédicateur dominicain. Le seul témoignage véridique et crédible, c'est la bonté. Et Charles de Foucault développe qu'en voyant le disciple si bon, les témoins se disent, mais combien encore meilleur doit être leur maître Jésus. Donc, protéger le peuple et établir la paix, ça commence. Hein. Un chrétien, il n'a pas vraiment le droit d'être inquiet. Hein. Philippiens 4, 6, n'entretenez aucune inquiétude. Il ne dit pas n'en ayez pas. Mais l'épître de Pierre précise, déchargez-vous sur lui le Christ de toutes vos inquiétudes, car il prend soin de vous. La paix, c'est le nom même du Seigneur. C'est savoir qu'il nous aime. Christ est notre paix. C'est son essence. Éphésiens 2, 14, l'Ancien Testament, déjà en justice, disait Adonai Shalom. C'est un des noms du Seigneur. Le Seigneur est paix. Mais une paix, pas la meilleure du monde. C'est pas forcément une absence de guerre. Même à Auschwitz, il y avait des gens qui étaient dans la paix. Dieu veille sur moi. Qu'est-ce qu'ils pourront dire, est-il soum? Ils auront beau mettre autant de barbelés qu'ils veulent autour de nous, mais rien ne m'empêchera de me laisser aimer par Dieu. Alors, ça ne veut pas dire que ça va être facile humainement, mais cette certitude qu'il nous aime, ça doit nous remplir de paix. Psaume 34, 15, recherche la paix. Et pour celui-là, c'est un peu la priorité du chrétien. Si on le fait, Séraphim de Sarov dit, acquiert la paix, des milliers autour de toi se convertiront. C'est ça la technique de la mission. Le critère de fécondité de la mission aussi, c'est un petit sacrifice personnel. Si ça ne coûte pas un petit peu, c'est que je suis dans le confort ou que je me recherche un peu. Et alors la quatrième mission principale du Messie, je récapitule, rassembler les tribus dispersées, purifier le sanctuaire, protéger le peuple et établir la paix. La quatrième, c'est régner comme roi universel et éternel. Alors ça, il y a des prophéties explicites de Zacharie, d'Isaïe, des psaumes là-dessus. Un roi universel et éternel. Est-ce qu'un simple être humain peut être roi universel et éternel? Jamais de la vie, parce qu'ils sont tous mortels. Ils terminent tous au cimetière. Et ils sont pas universels non plus, parce que si on me dit de vénérer le président Poutine ou le président Trump, je dis, ben pardon, il est pas de mon pays. Et donc, pour qu'il soit universel, il faut qu'il soit Dieu. Et donc, si 30% des Juifs de Jérusalem, selon les historiens d'après Flavius Joseph, ont reconnu Jésus de Nazareth comme Messie, c'est parce qu'ils ont vu les accomplissements de ces attentes du Messie. Fils de Judas, fils de Joseph, fils d'Aaron, et il a accompli ces quatre missions-là, et s'est proclamé une dernière fois sur la croix, tout est accompli. Donc, frères et sœurs, il y a plus de 300 prophéties dans l'Ancien Testament de ce que Jésus réalise dans le Nouveau. Pour fortifier notre foi, il est indispensable de les connaître un petit peu, sinon notre foi, elle est comme un édifice construit sur le sable. L'Ancien Testament, c'est combien de pourcents de la Bible à vue de nez? 78%. Si vous allez voir un film, vous regardez juste la conclusion. Vous allez comprendre quoi à l'histoire? Pas grand-chose. Et les catholiques, souvent, malheureusement, connaissent très peu l'Ancien Testament. C'est dommage, parce que ça rend notre foi fragile et on n'est pas capable de répondre à un musulman ou un témoin de Jéhovah ou un évangélique un peu fondamentaliste qui vient nous interpeller. Et ça, c'est un manque de charité. Alors, quand on dit Christ, Jésus, il baigne dans l'Esprit Saint, éternellement dans la Trinité, c'est pas pour lui qu'il est Christ, c'est pour nous. Donc à chaque fois que tu dis Christ, en fait, c'est une épiclèse, une invocation de l'Esprit Saint sur toi-même. Fais-toi capacité, je me ferai torrent. Quand on dit Christ, il faut vraiment s'ouvrir le cœur en grand, comme les saints. Ils n'avaient aucun autre moyen en plus que nous d'être saints. Alors, qu'est-ce qu'on attend? Il faut vraiment que l'onction de Jésus soit une onction qui s'épanche, qui s'écoule, comme entre des galets jusqu'aux ongles de mes doigts de pied et à l'intérieur de toutes les cellules de mon cœur. Son nom est une onction qui s'épanche. Ça vaut notamment pour ce nom de Mashiach. En hébreu, il y a le son shin, c'est comme le glissement d'une huile apaisante, une huile de douceur, Christ. Il y avait beaucoup de faux messies, et encore aujourd'hui en Israël, il y en a plein des faux messies, hein. Ceux qui ont fait un pèlerinage en Terre Sainte, derrière les panneaux de circulation, on voit une photo en jaune, enfin le fond est jaune, mais le gars est en couleur. C'est un faux messie qui s'appelle Rav Schneerson Lubavitch, qui vivait aux États-Unis, donc il n'était même pas né à Bethléem en plus, donc comment il va être le messie, le gars? En plus, il est mort, il n'est pas sorti du tombeau. Mais enfin bon, il le confesse comme messie, et il y en a eu plein dans l'histoire malheureusement. Shabbatai Tzvi, qui a fini par se convertir à l'islam, parce que sinon on lui coupait la tête à Istanbul, et d'autres. Et c'était donc aujourd'hui, il y a à la fois assez ambivalent par rapport au concept de messie. Il y a certains juifs qui sont très ouverts, même trop, en continuant d'accueillir des faux messies comme il y en avait avant. Il y a les juifs messianiques, hein, ça grandit comme mouvement de plus en plus, qu'ils le reconnaissent comme le messie annoncé par les prophètes. Souvent, ils ne font pas le pas du baptême à cause des siècles de persécution et malheureusement de tout l'antisémitisme et certaines paroles quasiment hitlériennes qu'on retrouve sur les réseaux sociaux à propos de la situation à Gaza ou au Liban. Mais c'est un des signes annonciateurs de la fin des temps. Selon l'Évangile lui-même, il est dit qu'avant la parousie, le Messie sera annoncé dans toutes les villes d'Israël. Sans cet esprit du Christ créateur et sauveur, immédiatement, à la place de notre chaise, maintenant, il y aurait un tas de poussière. Cet esprit, l'araméen l'appelle vivifiant. C'est lui qui, en permanence, ce que Dieu a insufflé dans la poussière en Genèse 2:9, et c'est le même verbe insufflé qui est employé pour l'Église en Jean 20-22. Jésus n'a pas soufflé sur la tête en leur bougeant les cheveux de ses apôtres. Mauvaise traduction, tu peux rayer aussi toutes les traductions francophones qui existent jusqu'aujourd'hui aussi là-dessus. Il a insufflé son esprit avec le même verbe que la création. Il a fait une création nouvelle en formant l'Église au Cénacle en Jean 20-22. Et bien, donc c'est cet esprit vivifiant. Nous sommes fils de cette Église, enfants de cette Église, et on est appelés à en vivre. Ce sont des paroles créatrices. Il ne faut pas les laisser passer sur nous comme de l'eau sur des plumes d'oie, mais les laisser entrer et nous transformer. Et ça dépend vraiment de l'adhésion de notre cœur. C'est le sens du mot foi, émouna. C'est un appui sur un roc. Ce n'est pas savoir des choses sur Dieu, émouna. C'est appuyer toutes nos existences, nos décisions, sur le roc de la foi qu'est Jésus-Christ. On n'a vu que deux noms, on essaiera d'en voir d'autres. Fils de David. Alors là, ça montre bien la généalogie dans la tribu de Juda grâce à Joseph, parce que l'adoption, la paternité adoptive, n'a pas du tout moins de valeur que la paternité charnelle, juridiquement et spirituellement dans les Écritures. Et donc ça désigne, ça rappelle tout ce que le grand roi David, c'est le bien-aimé, le Dodi du Cantique. Dodi, mon bien-aimé, c'est le nom de David, français David, Dodi en hébreu. Et donc, ça nous dit qui est Jésus. C'est le bien-aimé de notre âme, celui qui a soif de se marier avec notre âme dans les cieux. Bienheureux les invités aux noces de l'agneau, dit-on, avant chaque communion. Et c'est scellé quand nous communions avec un cœur ouvert à la messe. C'est la confession de foi des aveugles, les mages qui l'ont adoré comme ça, l'ange qui l'a révélé ainsi, le fils de David, au berger, et Pilate qui le proclame ainsi le roi des Juifs. Donc ça implique pour nous les chrétiens en 2026 de reconnaître son origine historique dans le peuple d'Israël et de rendre à Jésus comme roi donc de la dynastie davidique toute l'obéissance et l'honneur qu'il mérite. Fils de David, donc prononçons ces noms avec foi. Ça implique un petit peu de connaître tout ce qui s'est passé depuis le roi David. Pour résumer, hein, David, c'est de moins 1010 lorsqu'il est sacré roi à Hébron. 1003, il conquiert Jérusalem. Et 970, donc 40 ans après, hein, les trois premiers rois d'Israël ont régné 40 ans, il meurt et laisse la place à Salomon, qui est une autre figure de Jésus que nous verrons plus tard. Bénédiction sur vous.